Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Lors de notre dernier échange, nous avons essayé de regarder les fondements dans l'écriture, de ce qui concerne le purgatoire, enfer, ces notions pour bien constater qu'il y a quelque chose, l'écriture porte quelque chose là-dessus. Parfois on peut avoir l'impression que c'est de l'invention. Alors cependant, l'Église a dû méditer tout cela et a donné un enseignement là-dessus. Peut-être serait-il bon de le préciser un peu pour nous aujourd'hui, et notamment de repérer là où on peut parler de manière fausse sur cet au-delà, sur l'eschatologie. Que se passe-t-il au-delà de la mort ?
Oui, alors c'est sûr que les textes sont plus nombreux encore que ceux que nous avons évoqués l'autre fois, puisque, par exemple, l'existence de l'enfer, même si c'est surtout dans la prédication apostolique qu'on rencontre le mot Hadès, Jésus donne des descriptions très claires en parlant, par exemple, « Là seront les pleurs et les grincements de dents ». Et vous le trouvez, par exemple, en Saint-Luc, où il le dit très clairement, par exemple, Luc 13, verset 28, hein, « Pour tous ceux qui refusent finalement de prendre place dans le royaume de Dieu. Là seront les pleurs et les grincements de dents ». Et cette expression est tellement forte que 7 fois, saint Matthieu l'utilise. Donc ce n'est pas du tout facultatif, ce n'est pas quelque chose qui serait à prendre à la légère. Oui. Il y a vraiment un lieu possible, hélas, de perdition. Et par contre, cette espérance qui est née du fait qu'on puisse peut-être être délivré, c'est un passage à propos du péché contre le Saint-Esprit, dans lequel on dit que le péché contre le Saint-Esprit n'est pardonné ni en ce monde, ni dans l'autre. Or, dire qu'on puisse être pardonné dans l'autre monde montre bien qu'il y a quand même une possibilité pour d'autres péchés d'être purifiés. C'est une très belle conclusion que Saint Grégoire le Grand, à l'aube du christianisme, a noté en disant « ni en ce monde, ni dans l'autre », ça veut dire que dans l'autre, quand même, il y a quelque espoir pour d'autres péchés. Si le péché contre le Saint-Esprit, qui est finalement un péché rédhibitoire, parce qu'on dit que le bien est mal, le mal est bien, évidemment, ça ferme les portes de la miséricorde, parce que la miséricorde, c'est dans le bien. Si j'appelle le mal la miséricorde, évidemment, je ne pourrais jamais la rejoindre. Donc il y a vraiment des péchés qui ferment définitivement à la miséricorde. Mais pour les autres, ni en ce monde, ni dans l'autre, pour ce péché contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que pour d'autres péchés, il y a bien de l'espace pour être purifié. Et donc l'Église, avec beaucoup de sagesse, a déclaré régulièrement qu'il y avait un lieu de purification. Jusqu'au Concile Vatican II, n'imaginons pas que ce soit des choses, je dirais, du médiéval. Cette foi vénérable, dit le Concile Vatican II dans Lumen Gentium, donc la constitution la plus dogmatique qui soit, au numéro 51, cette foi vénérable de nos pères en la communion de vie qui existe avec nos frères déjà en possession de la gloire céleste, ou en voie de purification après leur mort, le Saint-Concile la recueille avec piété. Il propose à nouveau les décrets des cinq conciles, le deuxième de Nicée, celui de Florence, celui de Trente. Donc, en voie de purification après leur mort, montre bien que le Concile continue à croire à l'existence du purgatoire et à la prière pour les morts. Et de fait, quand on cherche dans les textes anciens des conciles, non seulement des conciles de Florence et de Trente, mais la première parmi les inscriptions les plus anciennes, on trouve déjà contre un groupe d'Arméniens qui s'imaginaient que, dans le fond, c'était un peu, les choses étaient un peu comme le Sheol, en disant, ils ne prient pas pour les défunts, pour que dans l'autre monde les péchés leur soient remis, mais ils prient de façon générale pour tous les morts, comme par exemple pour la bienheureuse Vierge Marie, les apôtres, vous voyez, une sorte d'indistinction. Et vis-à-vis de ces Arméniens, donc le pape Clément VI a très nettement donné des définitions, et on la trouve dans sa lettre à Mekhitar, le consolateur, au catholicos des Arméniens, en 1351, en disant très nettement que en descendant aux enfers, le Christ n'a pas détruit l'enfer. Et que les âmes de ceux, les âmes purifiées, entièrement séparées de leur corps, voient Dieu de façon manifeste. Donc il y a un espace pour la purification, et malheureusement, il y a le fait que l'enfer continue même après la vie de Jésus d'entre les morts. Donc ces textes sont à la fois brefs, mais très précis, et au moment du Concile de Trente, donc on a un peu approfondi les choses, et voilà ce qu'écrivait Saint Pie V dans son fameux catéchisme appelé le catéchisme romain. Aussitôt après la mort de Jésus-Christ, son âme descendit aux enfers et y demeura aussi longtemps que son corps resta dans le tombeau, écrit Saint Pie V. Mais ces paroles, il descendit aux enfers, nous obligent aussi à reconnaître et à croire que la même personne de Jésus-Christ était en même temps dans les enfers et au fond de son tombeau. Et ce point de notre foi n'étonnera personne, surtout si l'on veut se rappeler, comme nous l'avons dit tant de fois, que bien que l'âme eût quitté le corps réellement, jamais pourtant la divinité ne fut séparée ni de l'âme ni du corps. Donc c'est ça qui nous avions médité il y a quelque temps, sur la séparation de l'âme et du corps de Jésus, mais en même temps, la possibilité que l'âme était donc unie toujours au Verbe de Dieu, comme le corps. Et c'est ce qui explique cette descente aux enfers de Jésus avec son âme. Donc le pape Pie V continue. Qu'entendre alors par cette expression les enfers, qui ne signifie pas ici le sépulcre, ce mot les enfers désigne donc ces lieux, ces dépôts cachés où sont retenues prisonnières les âmes qui n'ont pas encore obtenu la béatitude céleste. C'est dans ce sens que l'Écriture sainte l'emploie dans beaucoup d'endroits. Ainsi, nous lisons dans l'apôtre saint Paul, au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et dans les enfers, donc au pluriel. Et dans le livre des Actes des Apôtres, saint Pierre nous assure que Jésus-Christ ressuscita après avoir été délivré des douleurs de l'enfer. Actes 2, 24. Mais ces lieux ne sont pas tous semblables. L'un est une prison, dit saint Pie V, affreuse et obscure, où les âmes des damnés sont tourmentées avec les esprits immondes par un feu perpétuel et qui ne s'éteint jamais. L'expression « le feu qui ne s'éteint jamais » qu'on rencontrait par exemple chez Daniel. Ce lieu porte le nom de Géhenne, d'abîme, c'est l'enfer proprement dit. Et le pape ajoute, il y a un autre enfer où est le feu du purgatoire, c'est là que les âmes des justes se purifient dans des souffrances qui durent un temps déterminé, en attendant qu'elles soient dignes d'entrer dans la patrie éternelle, car rien de souillé ne peut y pénétrer. Un troisième enfer est celui où étaient reçues les âmes des saints avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et où elles jouissaient d'un séjour tranquille, exempt de toute douleur et soutenue par l'heureuse espérance de leur rédemption. Or, ce sont précisément ces âmes saintes qui attendaient leur libérateur dans le sein d'Abraham que Jésus-Christ délivra lorsqu'il descendit aux enfers. Il ne faut pas s'imaginer que notre Seigneur descendit aux enfers uniquement par sa puissance et par sa vertu et que son âme n'y pénétra pas réellement. Nous devons croire au contraire et de la manière la plus formelle qu'elle y descendit véritablement et qu'elle y fut présente substantiellement. C'est le témoignage positif de David, « Vous ne laisserez pas mon âme dans l'enfer ». Et en descendant aux enfers, Jésus-Christ ne perdit rien de sa puissance et l'éclat de sa sainteté ne fut point obscurci. Au contraire, cet événement ne servit qu'à mettre en évidence la vérité des magnifiques descriptions tracées par les prophètes et à faire voir de nouveau qu'il était vraiment le Fils de Dieu, comme il l'avait déjà prouvé lui-même par tant de prodiges. C'est ce que nous comprendrons aisément si nous prenons soin de comparer ensemble les différentes causes qui ont fait descendre aux enfers Jésus-Christ et les autres hommes. Et à chaque fois, c'est la justice de Dieu qui fait qu'il y a ce partage entre ceux qui ont fait un mal rédhibitoire, s'excluant définitivement de Dieu, ceux qui ont fait un mal, qui est purifiable, et puis ceux qui attendaient déjà, dans un état bien heureux, mais d'un bonheur sans la vision béatifique, que Jésus descende aux enfers. Et c'est là que ces âmes saintes ont pu entendre le prince de la vie, comme on l'appelle dans Actes 3,15, et qu'il y a cette magnifique homélie qui est donnée dans le catéchisme au numéro 635. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude, un grand silence parce que le roi dort, la terre a tremblé et s'est calmée, et il nous est dit que Jésus va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il va pour délivrer de leur douleur Adam dans les liens et Ève captive avec lui, lui qui est en même temps leur Dieu et leur Fils. C'est magnifique ce passage, parce que ça montre bien que Jésus a bien sorti, comme on voit sur l'icône de la descente de Jésus aux enfers, Adam et Ève, les tirant l'un et l'autre et les faisant monter avec lui, comme il a fait monter avec lui dans ce ciel, dans ce paradis nouveau, le bon larron, mais aussi ces mystérieux morts que l'on voit en Matthieu, qui, au moment de la résurrection d'entre les morts, tout à coup apparaissent au moment de la résurrection. C'est au Matthieu chapitre 27. Nous pourrons peut-être en reparler une autre fois.
Merci, frère Édouard.
À bientôt.